C'est Paris, j'ai fait des études de cinéma, enfin de sciences politiques et de cinéma. J'ai travaillé 2 ans dans la production télé, donc du côté des diffuseurs. Et là, donc, je travaille depuis cette année en tant qu'auteur pour le cinéma et la télévision. Enfin, j'essaie de travailler en tout cas. Je vais commencer mon intervention par la citation de Victor Hugo. La presse a succédé au catéchisme dans la gouvernance du monde, après le pape, le papier. Donc c'est une citation en fait qui révèle bien ce qui s'est produit à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on est entré dans l'ère de l'information. Au XXe siècle, en fait, on a vu un développement impressionnant des techniques qui permettent la communication. Et c'est vraiment un fait unique dans l'histoire de l'humanité de voir apparaître en l'espace de quelques décennies autant de nouveaux moyens de communication, radio, télévision, cinéma, Internet, donc tout le multimédia. La naissance de la société médiatique a eu un impact sans précédent sur le phénomène sociologique de la transmission des valeurs. D'ailleurs, le simple terme valeur, en fait, il est employé dans le sens d'une donnée morale fondatrice seulement depuis la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en même temps de cette émergence en fait, de la société de l'information, on emploie le terme de valeur pour désigner quelque chose de moral. Avant, on n'avait pas ce terme-là. Donc le paradoxe aujourd'hui est le suivant. Jamais la société n'a eu autant de moyens et de supports pour transmettre, et pourtant nous assistons à une véritable crise de la transmission des valeurs. C'est-à-dire qu'au lieu de renforcer l'acquisition des valeurs fondamentales par les jeunes générations, celles-ci se retrouvent perturbées par la surinformation. Donc, on voit des phénomènes comme la tyrannie de la mode ou la société de consommation qui ont investi l'espace médiatique et qui remettent en cause le principe même d'une transmission des valeurs, en opposant à un modèle qui héritait du passé traditionnel, une société moderne qui accorde la primauté à l'individu libéré. Et il serait tentant de dire que cet espace médiatique n'est que le reflet d'une société déstabilisée, vouée au culte de l'argent, à la fascination pour la violence et pour l'impudeur. Mais on peut aussi penser au passage de la Bible qui nous encourage à communiquer notre foi et y voir une formidable opportunité pour transmettre le message des évangiles. Alors on va voir ensemble, en fait, j'ai un peu préparé 2 parties. Une partie qui explique en quoi les médias modernes impactent la transmission des valeurs entre les générations, aussi bien au niveau des canaux de transmission que des valeurs elles-mêmes. Il y a vraiment un double impact des médias. Et en deuxième partie, quelle attitude on peut avoir face aux médias en tant, bon, donc le thème de la journée, c'est en tant qu'enseignant. Et moi, je serai un peu plus ouvert que ça, ce sera en tant que simplement de citoyen, croyant, de participant en fait à l'espace médiatique. Alors, petit rappel au niveau des définitions des termes qu'on va employer. Les valeurs, en fait, elles revêtent des définitions différentes selon qu'elles soient morales, culturelles ou sociales. Dans notre définition, les valeurs sont ce qui entoure et encadre les rapports humains. Donc, que ce soit les relations interpersonnelles et de groupe, les référents et symboles éthiques, moraux, religieux, les droits et les devoirs entre la personne humaine et l'organisation communautaire. Donc, c'est important de distinguer le terme de valeur du terme éthique. C'est un terme qu'on entend souvent revenir lorsqu'il s'agit des médias. On parle souvent d'éthique des médias. L'auteur Patrick Brunet, dans son livre Valeurs et éthique dans les médias, propose la définition suivante. L'éthique dans la sphère médiatique est le respect dans la transmission des contenus, des valeurs fondamentales liées à la dignité humaine et au bien commun. Vraiment, ça parle de comment les valeurs sont transmises. Est-ce qu'il y a une éthique de transmission des valeurs? Donc, dans cette acceptation, je pense qu'une réflexion éthique a toute sa place dans la démarche d'un croyant. On a beaucoup parlé ces dernières années de menaces et de risques de dissolution des valeurs face à la montée de la mondialisation économique. Et effectivement, la globalisation des médias y a aussi participé. Quels sont les procédés employés par les médias qui peuvent influencer les valeurs de nos sociétés? Comment cette influence se produit-elle? C'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, avant de parler du côté médiatique, je vais simplement parler du côté spectateur en faisant un petit rappel sur quelles sont les attentes par rapport aux médias. Pourquoi est-ce qu'on allume la télé et qu'est-ce qu'on cherche sur Internet? Alors, selon les études, la télévision, c'est encore le média prioritaire pour 40% de la population, suivi d'Internet pour 19%, de la radio pour 16%, des journaux et quotidiens pour 12%, et de la presse magazine pour 8% de la population. De ces études émergent plusieurs axes principaux au sein de la population. Donc, au niveau des axes des attentes. Il y a l'axe instructif qui correspond à une recherche d'information, l'axe récréatif qui est plutôt celui du divertissement, mais aussi l'axe pro-groupe, c'est un axe qu'on appelle pro-groupe, c'est-à-dire de personnes qui cherchent le contact humain à travers les médias. Et enfin, l'axe pro-individu, de personnes en fait, qui seraient plutôt intéressées par des informations pratiques ou par de nouveaux produits. Donc on voit émerger comme ça deux attitudes majeures par rapport dans notre rapport aux médias, selon qu'on cherche un média qui s'adapte à notre rythme de vie, qui parle de nous, ou selon qu'on cherche à mieux comprendre le monde, dans une attitude plus ouverte en fait, qu'on cherche des réponses à nos questions. Alors bien sûr, plusieurs de ces attitudes peuvent se retrouver au sein d'une même personne, c'est-à-dire qu'on n'est pas unidimensionnel, mais c'est vrai que c'est important de comprendre les différentes attentes de la population face aux médias. Donc il peut y avoir une approche qui est plutôt égocentrée, qui a souhaité que les médias parlent de nous et rechercher en premier lieu l'émotion. Donc c'est une quête de rêve, d'évasion, mais qui peut aussi mener au règne du moi-je. En revanche, le champ de préoccupation peut aussi s'élargir à l'entourage proche, à la famille. Donc là, on est plutôt dans une recherche de comment vivre en harmonie avec notre environnement. C'est-à-dire que le média lu, vu ou écouté doit permettre de se tenir au courant de l'actualité. C'est-à-dire les membres en fait de ce... Enfin, ceux qui suivent un peu cet axe d'attente par rapport aux médias se voient en tant que citoyens et recherchent une sociabilité de proximité. Une autre attente qui n'est pas majoritaire mais qui est aussi à prendre en compte, c'est celle de trouver des informations aussi fiables et crédibles que possible afin de comprendre les questions complexes. Donc là, c'est des personnes qui sont plutôt exigeantes, qui cherchent à être mieux renseignées que les autres et qui recherchent des contenus culturels ou artistiques avec des thèmes qui reviennent souvent sur l'histoire, la recherche. Et enfin, dernier pôle d'attente, mais qui est compatible avec les autres, c'est un pôle que je nommerai « information et ego », qui correspond au souhait qu'un média aide à cultiver l'appartenance à un groupe. Donc, il peut être un groupe culturel ou ethnique, mais aussi simplement, ça peut être un intérêt professionnel, par exemple, des recherches d'informations sur les placements boursiers. Donc voilà, ce que je voulais mettre en valeur dans ce rapide panorama des attentes, c'est qu'il n'y a pas d'attente de la part du consommateur de médias de les utiliser comme un moyen de transmission des valeurs. On est vraiment sur une recherche d'information et de divertissement qui prime. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous-mêmes attendons des médias? À quel point sommes-nous ouverts aux informations et au monde? Alors on va voir ensuite comment les médias ne répondent pas forcément à ces demandes et à ces attentes, et pourquoi ils ne le font pas. Mais voilà, je voulais ouvrir le débat en rappelant notre responsabilité de consommateur, particulièrement en ce qui concerne les médias. Abordons une partie sur en fait comment les médias altèrent les canaux traditionnels de transmission des valeurs. Donc ce qu'on appelle un canal traditionnel de transmission des valeurs, c'est surtout l'école et la famille. Mais ça peut être aussi, alors je vais parler simplement d'un cas particulier, comment ça se passe dans un autre pays. Je voulais prendre l'exemple en fait de la transmission horizontale d'un missionnaire dans un pays africain. C'est un peu en contre-exemple en fait de ce que font les médias. Parce que là, c'est une transmission qui repose sur un partage, donc dans l'idéal bien sûr d'un missionnaire qui fait bien son boulot. C'est-à-dire qu'en fait, le comportement du missionnaire va être conforme à son enseignement, et c'est ça qui va lui conférer sa valeur pédagogique. Et la télévision ne transmet pas du tout de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un écran. Il y a un écran en fait entre l'utilisateur et celui qui partage, qui opère la transmission des valeurs. Autant le missionnaire peut difficilement mentir sur ses valeurs, parce qu'au bout d'un moment il est rattrapé par son comportement, encore une fois dans l'idéal, autant la télévision choisit ce qu'elle montre, plus que le spectateur ne choisit ce qu'il regarde. Donc pour rester dans l'exemple de nombreux pays africains, la télévision en fait va faire concurrence à la transmission des valeurs. Elle va diffuser par le biais d'émissions et de feuilletons une image séductrice du mode de vie occidental. C'est-à-dire qu'on voit des séries comme Friends ou How I Met Your Mother, on est tenté de croire que tous les Américains vivent dans des grands lofts aisés, qu'ils n'ont pas de problèmes sociaux. Et dans ce cas, la télévision remplace le discours traditionnel des pères de famille ou des chefs de village et modifie la perception que les spectateurs ont de leur propre pays et de la société. Bon, on va revenir sur la France. Donc en France, les deux canaux majeurs de transmission sont toujours la famille, donc à travers l'éducation et l'école, à travers l'instruction. Et si on ne saurait imputer aux médias toutes les difficultés que connaissent aujourd'hui ces institutions, c'est important de voir comment les médias se sont infiltrés dans les fissures du système, comment ils les ont élargies, et par la surinformation qu'ils apportent depuis près de 50 ans, ont affaibli en fait le monopole de la transmission que possédaient auparavant la famille et l'école. Donc au cours du XXe siècle, s'est affaiblie l'importance juridique de la famille, cette institution s'est fragilisée, et en même temps le récepteur de télévision a fait irruption dans la salle de séjour, et a eu pour effet de restructurer ce que c'est que de passer une soirée en famille. C'est-à-dire le récepteur fixe la place de chacun dans la pièce d'une manière différente. L'échange familial, qui est quand même la source première de transmission des valeurs, se retrouve réduit. Et lorsqu'il se manifeste, il va s'établir sur des thèmes développés par les émissions qui sont regardées et qui peuvent ne pas correspondre en fait aux préoccupations profondes de la famille. Donc j'apporte quand même une autocritique à ce constat. Je ne veux pas céder au passéisme en disant qu'avant c'était mieux. Un père de famille n'est pas forcément une référence en matière de transmission des valeurs. Il peut aussi se comporter en tyran. et la télévision peut élargir un horizon et combattre les préjugés d'une famille. Là, en fait, mon propos, c'est d'analyser le déplacement de pouvoir qui s'est effectué, en fait, du père de famille à la télévision. Et ensuite, on tirera des conclusions. Le déficit de transmission au niveau de la famille impacte directement l'autre canal traditionnel, qui est l'école, à qui il est justement demandé de compenser ce déficit d'éducation. En fait, à mon sens, les enseignants se retrouvent pris entre plusieurs feux, entre les parents et leurs exigences de tenir un rôle d'éducateur, entre les enfants qui ont maintenant l'espace de présenter leurs propres exigences. Donc on parle souvent d'élèves consommateurs, qui est une conséquence directe de l'évolution de la société traditionnelle vers une société de consommation. Donc les parents, les enfants, les politiques publiques qui attendent de l'école, donc c'était dit dans le tract en fait qu'on attend de l'école qu'elle... Enfin, je pense non seulement qu'elle transmette des valeurs, mais surtout qu'elle règle en fait des problèmes identitaires de la France à travers l'intégration. Et donc les médias, en fait, qui ont accéléré et amplifié ces trois sources d'exigences. Une autre raison pour laquelle l'école éprouve des difficultés à tenir son rôle de canal de transmission des valeurs, c'est aussi parce qu'elle est passée de l'autre côté de l'écran. C'est-à-dire qu'elle est plus souvent jugée et commentée, elle est au cœur des débats publics, et en fait, la conséquence de ça, c'est que le professeur a perdu encore plus de son autorité que le père de famille. C'est-à-dire, pour répondre à la demande qui pèse sur eux, les professeurs se replient sur le politiquement correct et tentent de coller aux messages qui sont diffusés dans les médias. Et non seulement aux messages, mais aussi au langage employé ou aux pratiques qui ont cours dans les médias. Cela afin de garder l'attention des élèves. Donc on voit cela, par exemple, dans la généralisation de la transversalité, qui en fait correspond au zapping télévisuel et au surfing d'Internet. On voit ça aussi à la généralisation de la pratique des débats, donc qui est héritée de la tradition des débats télévisés, donc qui est née en même temps que la télévision, mais aussi au niveau de la résonance de chaque événement d'actualité dans les cours. C'est-à-dire les cours vont évoluer au fur et à mesure des questions sociétales qui sont traitées dans les médias. Autre exemple de la fragilisation de l'école par les médias, c'est le recours de plus en plus systématique au palmarès. C'est-à-dire la publication du palmarès, par exemple, des lycées en France, va mettre les établissements en concurrence et influer sur la politique, mais aussi sur les stratégies et les choix pédagogiques de l'établissement. Quelle est la conséquence ? Le budget en fait, de chaque établissement va peu à peu dépendre du traitement médiatique du lycée et favoriser une politique qui soit axée sur de meilleures statistiques. C'est-à-dire le nombre de mentions au bac, le nombre d'élèves intégrant une grande école après une classe prépa. Voilà, donc fin de cette partie qui était axée sur les canaux de transmission. On va maintenant parler en fait de l'altération des valeurs elles-mêmes par les médias. Donc la transmission familiale des valeurs, on l'a vu, est altérée par la présence du poste de télévision dans le foyer, mais aussi par les émissions transmises. Donc les médias ne sont pas neutres, ce serait un mensonge que de l'affirmer. Ils ont les moyens de favoriser ou de stigmatiser aussi bien des groupes que des valeurs ou certains points de vue. C'est-à-dire qu'il y a un choix quantitatif de mettre en lumière certains sujets par rapport à d'autres. Donc ça peut prendre la forme d'un événement de l'actualité, comme on l'a vu pour le 11 septembre 2001, pour l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'un seul événement devient disproportionné et incarne brusquement les grands débats de société. En créant un moment où l'émotion est à son comble, les médias précipitent la prise de décision. Ce qui s'est passé par exemple avec la diffusion de la photo du petit Aylan, donc l'enfant migrant qui a été retrouvé mort sur une plage turque. Et on voit comment cet effet de distorsion de la réalité est à double tranchant. Parce qu'à la fois, d'une part, il peut alerter sur une vraie souffrance des personnes qui n'ont pas des moyens de l'exprimer. Et en même temps, il peut complètement brouiller la notion de choix populaire en faisant peser la vie d'une minorité plus lourd que ce qu'elle est réellement. Autre moyen pour les médias de transmettre des valeurs, la fiction. Donc en France, les séries télé et la télé-réalité que je range dans la fiction sont écrites non pas de manière à faire réagir ou à faire découvrir des thèses ou des pensées, mais le but en fait est de rechercher, enfin le but des auteurs est de rechercher le plus petit dénominateur commun. Donc là, c'est ce qu'on m'a appris un peu mon expérience dans la production de télé. En fait, ce qui va primer, c'est la loi des parts de marché, c'est-à-dire le pourcentage qu'un programme d'une chaîne va faire par rapport à l'ensemble des programmes proposés à une certaine heure. Les chaînes vont rechercher les programmes qui sont susceptibles d'attirer le plus grand nombre, et cela du coup en favorisant le consensus et les valeurs qui ne font pas débat. C'est-à-dire qu'on étudie les séries françaises dans leur ensemble. Bon, alors on a Canal+, qui se distingue d'une certaine manière, mais qui se distingue surtout sur le recours à la violence. En fait, quand on étudie les séries françaises de fiction, on se rend compte que la variété des personnages et des actions est très limitée. On a toujours le même type de personnage qui revient. Tous les héros pensent un peu toujours la même chose, ont un peu les mêmes valeurs. Et leur mode de vie, en fait, et leur choix, par exemple, ça se voit dans les histoires sentimentales des héros, ils vont toujours envisager en fait de la même manière l'amour comme par exemple une consommation avec différents couples qui se succèdent. Ça, c'est curieux de voir que c'est quand on voit en fait comment les héros de fiction vivent leurs histoires d'amour, en fait, on dirait qu'il y a un seul modèle et une seule manière de faire. Et ça, forcément, ça implique en fait une certaine vision de la valeur amour dans les médias. La religion, elle est présente dans les fictions françaises, mais elle semble cantonner un certain rôle. C'est-à-dire, pendant très longtemps, tous les thèmes de la foi et de la spiritualité s'incarnaient en une seule figure, c'était le rôle du prêtre. Donc, le prêtre du village qui était soit le papa gâteau, compréhensif, soit un petit peu plus ambigu. Alors, depuis quelques années, notamment avec la série Ainsi soit-il sur Arte, la place du thème de la religion a évolué, mais elle reste perçue comme un fait uniquement social. Donc, la religion est vue comme une forme d'organisation sociale, comme si au fond la foi et la spiritualité n'existaient pas. Alors, il y a beaucoup d'autres moyens de transmission, j'en citerai un autre. C'est les émissions de débats télévisés et la prépondérance des médias lors des campagnes politiques. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que la télévision bénéficie du système d'élection des gouvernements pour se placer non seulement en interface entre l'élu et le peuple, mais aussi en interprète. C'est-à-dire que la volonté du peuple est interprétée d'une certaine manière à travers les sondages, les interviews d'experts ou les choix de micro-trottoirs. La télévision entretient une certaine illusion sur ce qu'est la réalité. Et je pense que réfléchir aux médias implique vraiment de réfléchir à ce qu'est la vérité pour nous. Par exemple, on peut reprendre le concept de télé-réalité, le mot même est un mensonge en fait. Parce que ni la réalité ni la vérité ne peuvent être transmises par l'outil télévisuel. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, cet outil repose sur la spectacularisation. C'est-à-dire la télévision a besoin de mettre en scène ce qu'elle montre afin d'accrocher l'attention du spectateur. Au XIXe siècle, on comparait les valeurs à une lumière. On parlait du siècle des Lumières, des philosophes des Lumières, c'était des valeurs qui étaient censées éclairer les nations, aider à distinguer le vrai du faux, le juste et l'injuste. La télévision aussi émet une lumière qui attire, celle de la célébrité par exemple, mais une lumière artificielle, qui peut aussi bien éclairer l'ignorance qu'aveugler les gens sur la vérité. Donc, quelles sont les valeurs qui sont mises en lumière par les médias? On peut prendre par exemple, alors, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement citer en fait une valeur maîtresse qui est le présent, par opposition au passé, qui est perçue et montrée comme une époque où les gens pliaient sous le poids des lois ou de la morale. Donc ça, en sociologie, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage. C'est une définition de Becker dans son livre Outsiders. Le comportement déviant est ce que les gens étiquettent comme tel. Le déviant est celui à qui on a réussi à coller cette étiquette. Donc le comportement aujourd'hui non déviant dans les médias est celui de la tolérance. Mais de quelle tolérance s'agit-il? S'agit-il d'une valeur positive, du respect de l'autre, ou s'agit-il d'une indifférence? Égoïste, pardon, d'une indifférence égoïste qui finit par exercer une dictature du doute et du vide. On retrouve ça aussi dans la valeur du jeunisme, donc les jeunes. Donc le recours à la particule isme indique bien qu'on a affaire à une idéologie, mais le fond en fait de cette valeur n'est pas de dire que être jeune c'est mieux qu'être vieux. En fait, le véritable fond, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière le jeunisme dans les médias, c'est de pousser les jeunes à la consommation en leur imposant une certaine image de ce qu'ils doivent être. Donc à travers des vêtements à porter, des objets à posséder comme les smartphones, des voyages à faire, des activités à faire, des activités qui vont engendrer encore d'autres besoins et d'autres consommations. Donc la conséquence est d'altérer l'image de l'aïeul dans ce qu'elle avait de constructive dans le système de transmission des valeurs, comme si un aïeul n'avait plus rien à construire et en fait ne pouvait participer à la construction moderne. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des cours d'histoire, ce discours de jugement de valeur du passé face au présent, en fait, va tendre à rejeter un passé qui va être qualifié de moyenâgeux. C'est un terme dépréciatif. Rejetant avec cette époque les valeurs qui lui étaient associées. Donc là encore, j'auto-limite mon propos, dans la mesure où l'école étant républicaine, il est attendu, vous allez nous en parler sans doute, qu'elle ait une vision de l'histoire plutôt pro-républicaine et qu'elle promeuve le régime actuel. Ce que je pointe du doigt en fait de mon intervention, c'est la dépendance grandissante de l'école à l'égard des médias et la fluctuation de sa morale en fonction des événements faisant la une médiatique. Donc ça, on l'a vu récemment avec le sort qui a été jeté aux langues anciennes, qualifiées de passéistes, et la modification des programmes d'histoire afin d'étudier certaines religions plutôt que d'autres. Au début des années 60, Marshall McLuhan, qui est l'inventeur du concept de village planétaire, a affirmé « The medium is the message ». Donc le médium est le message. Donc finalement, l'important n'est pas le contenu des messages, donc les valeurs, mais le média grâce auquel celui-ci est transmis. C'est-à-dire ce qui va vraiment compter, en fait, c'est le massage que les médias exercent sur nos modes de pensée, d'agir et de sentir. Loin d'être des techniques neutres, les médias agissent sur la culture et sur l'ordre social, après avoir exercé une influence subreptice et irrésistible sur nos façons d'appréhender le monde sensible. Donc c'est une analyse qui a donné naissance à une science qui s'appelle la médiologie, développée en France par Régis Debray, et qui étudie en fait les appareillages de la pensée qui changent en douceur les idées et les croyances des individus. La télévision est un outil de communication de masse dont la raison d'être reste l'audience, où l'interactivité n'existe pas. Si le téléspectateur a le choix de regarder ou de ne pas regarder la télévision, il a le choix entre certains programmes, mais il ne participe pas à l'élaboration des grilles de programmes ni à la confection des émissions. Et en fait, son choix est de plus en plus illusoire, puisqu'aujourd'hui, il est devenu incontournable d'être connecté, et les programmes, au lieu de se diversifier, tendent à se ressembler en fonction des cases horaires. C'est-à-dire que toutes les chaînes vont diffuser du sport au même moment, ou des informations, ou des séries. Et quelle est la conséquence? En fait, ça réduit le pouvoir de la télécommande. C'est par exemple amusant de voir que des émissions mettent aussi en scène des spectateurs. C'est des spectateurs qui regardent des spectateurs qui regardent un show, comme s'il n'y avait finalement plus besoin de spectateurs pour applaudir. Et le téléspectateur se retrouve en fait dans un état de passivité absolue. Et ça participe en fait de ce qu'on peut appeler la création de l'illusion de la toute-puissance de la télé. Parce qu'en fait, le message inconscient de cette mise en scène, de voir ces spectateurs à l'écran, en fait, c'est faire entrer dans la tête du téléspectateur que le spectacle de la télé ne s'arrête jamais. Qu'il zappe ou pas, le spectacle continue. Et en fait, l'impact que ça a, c'est que ça relativise la seule liberté du téléspectateur face à la télévision, qui est celle de l'éteindre. Voilà, je voulais attirer votre attention sur la valeur liberté. Elle est présentée d'une certaine manière dans les médias, mais dans le rapport qu'on peut avoir dans les médias, en fait, on se rend compte qu'elle est atteinte. Même si la télévision s'ingénie à rendre le spectateur le plus passif possible, le pouvoir de l'audimat est réel. Donc l'émission est aussi un spectacle, il doit fixer un public. Pour cela, tous les moyens de séduction seront utilisés. Et si le CSA, donc l'autorité de régulation, surveille et impose des limites, les médias utilisent le principe de liberté d'expression pour justifier leur choix de diffusion. Et en fait, on comprend que c'est pour ça que est né ce culte du jeunisme, du matérialisme dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, ce ne sont pas les médias qui l'ont déclenché seul. Pour exister, pour être puissant, les médias ont besoin en fait d'un audimat élevé. Donc il faut à la fois lui donner ce qu'il veut, vous vous rappelez la citation de Juvenal du pain et des jeux, à la fois il faut donner au peuple ce qu'il veut, et en même temps il faut façonner les désirs du public dans le sens de ce que les entreprises finançant la télévision souhaitent. Donc vous voyez qu'en fait la transmission des valeurs se retrouve prise dans une équation à trois facteurs, les médias, les consommateurs et les vendeurs. Cette équation se résout grâce à une ruse des médias qui s'appelle le dressage de la frustration. Le désir du spectateur doit être sans cesse excité, ravivé, mais jamais complètement comblé. C'est pour cette raison que lui sont présentées, d'une part, des émissions qui montrent la réalité comme un monde dangereux, en favorisant les sujets anxiogènes, et d'autre part, tout un monde de rêves, constitué de publicités, des publicités de voitures, des mannequins au corps désirable, des jeux dans lesquels il est possible de gagner des milliers d'euros en répondant à des questions stupides. Au-delà des valeurs transmises, quelle vision du bonheur les médias présentent-ils? En fait, les médias présentent une vision d'un bonheur matériel, bien sûr, mais qui est à portée de tous, qui est à portée de télécommande, et pourtant qui sera toujours inaccessible. Pourquoi? Parce que l'écran n'est pas franchissable. Il reste un rideau, non pas de fer, mais transparent, un miroir que même Alice ne pourrait traverser. Internet est maintenant venu s'ajouter à la pratique de la télévision. Alors c'est encore assez flou si Internet remplace la télévision ou s'il est venu compléter. Au niveau des jeunes, en fait, on se rend compte qu'Internet en fait s'ajoute comme une pratique médiatique supplémentaire à la télévision. Même si en temps passé devant l'écran de télévision, même si le temps passé par les jeunes devant l'écran de télévision va diminuer, en fait, le temps d'exposition aux médias de manière générale, lui, a augmenté. Internet est un média qui a l'avantage de lever ce rideau de l'écran. Il offre la possibilité de créer son propre site et laisse l'initiative aux internautes d'aller rechercher l'information. Donc le contexte d'Internet est plus favorable à l'affirmation de l'internaute face à son média. Pour autant, on observe des phénomènes à la fois proches et complémentaires de ce qu'on voit en fait dans le cas de la télévision. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement l'esprit de zapping avec le surfing. On retrouve une favorisation de l'instantanéité, du sensationnel. Même si au niveau du choix, Internet est un média radicalement différent, en fait, on se retrouve un peu dans un extrait inverse. C'est-à-dire que la télévision donnait un choix assez illusoire du programme qu'on pouvait regarder, mais qui menait en fait à une uniformité de l'offre. Internet, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que tout est possible, tout est accessible simultanément. YouTube, par exemple, offre une liberté de visionnage illimitée. Mais est-ce que le résultat pour l'internaute, et surtout pour la valeur liberté, est différente? Alors ma réponse, en fait, je dirais que celui qui sait déjà ce qu'il cherche, et qui est déjà solide sur le plan de ses valeurs, peut être avantagé par Internet. Et il va s'en servir en fait comme un moyen, et non le subir. En revanche, le comportement plus surfeur, donc qui reçoit un peu tout ce qu'Internet lui donne de manière désordonnée, se retrouvera fragilisé sur le plan de ses valeurs, par tous ses avis contradictoires, ses débats sur les forums dont le niveau est quand même rarement élevé, du point de vue de la pensée, ses blogs d'amateurs, qui ont maintenant autant de résonance que des avis d'experts. Internet pose un défi à nos valeurs, que je formulerai ainsi. Dans une situation où la représentativité de la communication publique met en lumière des statuts et des personnalités, la notoriété remplace toute connaissance comme fondement de la compétence dans l'espace public. La publicité est devenue moins intrusive sur Internet grâce au filtre anti-spam. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est la marchandise qui a changé de nature. Sur les réseaux sociaux, l'individu devient lui-même une marque ou un produit à vendre. C'est-à-dire qu'au lieu, comme c'est le cas dans la télévision, de subir la publicité, d'être influencé par elle, en fait, le consommateur va faire sa propre publicité. Il va mettre en scène sa vie. Donc, il va chercher des photos qu'il met en valeur. Et il va mettre en scène sa vie de la même manière en fait, que les spots publicitaires montrent un produit sous son meilleur jour. La monnaie d'échange étant le nombre de likes ou le nombre d'amis qui confèrent une influence, en fait, une crédibilité sur Internet. Ce que je vous disais sur la notoriété comme fondement de la compétence. Donc les pouvoirs sont distribués d'une manière inédite sur Internet, mais on retrouve néanmoins des comportements très similaires et des valeurs qui sont exactement les mêmes que celles des médias de manière générale. Autre caractéristique, la volatilité de l'information. Donc les valeurs dominantes de notre temps promues par les médias, ou tout du moins affichées, ce sont les droits de l'homme, la démocratie et la République. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'on l'a vu, le but premier des médias, c'est pas de transmettre des valeurs. Lorsqu'ils le font-ils par déontologie ou par opportunisme? C'est une question qui se pose. Bon, je vais sauter une partie, en fait, par manque de temps. Donc on va passer par une partie, en fait, sur quelle image les médias donnent des valeurs chrétiennes. Et de l'autre côté, comment les religions se servent-elles des médias pour diffuser leurs valeurs? Qu'il s'agisse de la médiatisation des voyages du pape, du recours à Internet par les fondamentalistes musulmans pour lancer des fatwas et recruter, de l'emploi par les télévangélistes américains de tous les procédés médiatiques que j'ai cités, on remarque quand même que les grandes religions ont compris que les médias n'étaient pas forcément une concurrence, mais pouvaient être un puissant atout. Donc le défi qui se présente à nous est le suivant. Dans une société où il n'y a pas d'existence sociale sans communication, comment devons-nous exister dans l'espace médiatique? Comment présenter nos valeurs? Devons-nous rechercher la discrétion afin de ne pas tomber dans le piège de la notoriété et de ne pas reproduire finalement ce que nous dénonçons? Devons-nous surveiller notre image? Devons-nous créer un profil Facebook à Jésus ou faire du message de l'évangile un buzz? Donc là, c'est des questions que je pose parce que ce sont vraiment des questions de pure éthique des médias. Alors à ça, l'exemple de Paul à Athènes en acte 17 est un élément de réponse intéressant, mais qui n'est pas limitatif d'autres attitudes. Donc Paul utilise l'aréopage, donc qui est le moyen de communication et de débat de l'époque, sur invitation des penseurs grecs. Alors au préalable, notons que d'après la Bible, Paul s'entretenait chaque jour dans la synagogue avec des juifs et des non-juifs, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Donc ça a commencé par quoi? Ça a commencé par des rencontres aléatoires, directes, de proximité. C'est sur invitation de la part de philosophes épicuriens et stoïciens que Paul prend la parole à l'Aréopage. Et son discours commence non pas par une dénonciation des idoles, qui l'ont par ailleurs choqué, comme le texte biblique le dit, mais son discours commence par un compliment. « Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » C'est un compliment à double tranchant. Il poursuit son discours en étant tout à fait clair sur sa croyance en un Dieu créateur du monde, tout en utilisant des références issues un peu des best-sellers de l'époque, c'est-à-dire des ouvrages de philosophie ou de poésie grecque, en employant un langage susceptible d'être compris par les Athéniens. Donc je trouve que c'est un bon exemple de discours public qui ne compromet en rien la foi d'un croyant et qui utilise les moyens médiatiques pour transmettre un message, donc la résurrection de Jésus, de manière respectueuse et efficace. Une différence majeure entre la situation de Paul et la nôtre est que nous avons déjà une image aux yeux du monde. C'est-à-dire qu'autant le message de Jésus était totalement inédit pour les Grecs, autant nous nous retrouvons face à une problématique qui est que comment porter l'héritage de l'histoire de notre religion et comment réagir face à l'image que les médias nous renvoient. Comment éviter que cette image ne détourne l'attention de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le message évangélique. L'image des chrétiens dans les médias est complexe et a beaucoup évolué ces dernières années. Ainsi, l'Église catholique est à l'origine mise de côté par les médias et vue comme présentée comme une institution désuète qui avait dominé la pensée bien trop longtemps. En fait, elle a réussi son comeback. Elle a réussi son retour sur scène. Elle s'est débarrassée de sa légende noire, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins assimilée à l'inquisition, aux conversions forcées de la colonisation. Elle est de moins en moins aussi assimilée à la richesse des prélats de l'époque. Car elle a su jouer le jeu médiatique, en premier lieu grâce à son allégeance au système des stars. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs personnalités, comme l'abbé Pierre, Mère Teresa ou les papes, devenir des icônes médiatiques. Et aujourd'hui, on voit comment, avec le pape François, la valeur charité a su se conjuguer et se confondre en fait avec les valeurs humanistes déjà en vogue dans les médias. On peut aussi penser au journal La Croix, qui a obtenu le respect de la profession. Donc l'Église catholique a trouvé une place dans l'espace public du point de vue des thèmes sociaux, mais on a vu l'année dernière avec la mobilisation contre le mariage homosexuel, que ces prises de position pouvaient aussi lui valoir un étiquetage, en tant que force conservatrice, refusant l'évolution naturelle, je mets plein de guillemets, refusant l'évolution naturelle des mœurs. Donc voilà, l'évolution naturelle avait été une expression utilisée par les médias pour qualifier en fait le mariage homosexuel, enfin le mariage pour tous. Et en fait, les protestants évangéliques ont fait face aussi à des problématiques similaires, mais sans bénéficier de la même image. Les reportages dans les églises évangéliques ont longtemps favorisé le versant spectaculaire du mouvement, de manière à faire percevoir le protestantisme comme une religion étrangère, d'origine américaine. Donc ce qui est une absurdité historique, puisque la France était un des pays qui comptait le plus de huguenots, donc de protestants au XVIe siècle, et qu'effectivement, en fait, les protestants américains sont aussi issus de la France. La spiritualité est montrée uniquement comme une démonstration, impliquant des cris, des chants psalmodiés. Et en fait, ça entretient une confusion totale avec, par exemple, le don des langues. La charité semble être le monopole du catholicisme. Rien n'est dit sur les actions humanitaires des mouvements protestants, qui est peut-être lié à un atavisme idéologique qui pensait que le protestantisme avait une origine commune avec le capitalisme. Les mobilisations contre la loi du mariage pour tous ont été l'occasion pour les églises protestantes d'exister dans l'espace public et de se faire entendre. Un reportage assez inattendu est passé au journal de 20h, le 25 mai de cette année, sur France 2, et a offert un regard plus mesuré que d'habitude sur l'évangélisme. Et ce qui est intéressant, c'est que le titre de ce reportage était « Le vent en poupe ». Donc ce qui a une connotation positive sur la religion, un peu comme on dirait ça d'un effet de mode. Alors que jusque-là, les articles étaient plutôt intitulés « Les évangéliques à la conquête du monde ». Donc c'était une connotation beaucoup plus guerrière, en fait. Donc je vais faire un rapide bilan de mon intervention. Alors, au final, est-ce qu'on peut réellement dire que ce formidable arsenal des médias et mis au service de valeurs fortes. En fait, je ne le pense pas. C'est-à-dire, je pense quand même que la société a évolué depuis l'ère des grandes propagandes vers une forme plus libre d'échange. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des valeurs de matérialisme, de consommation individuelle. Je ne pense pas qu'il faille les craindre. Certes, ce sont des idoles très présentes, mais ce sont aussi des idoles bien fragiles. Pourquoi ? Parce qu'elles s'avèrent insuffisantes pour tenir sur du long terme. Elles s'avèrent insuffisantes pour former un système de pensée capable de répondre aux grandes questions de la vie. Et elles finiront par s'effondrer sur elles-mêmes à mesure que la crise économique s'étendra et que de plus en plus de personnes en fait seront exclues du système. Voilà, donc en conclusion, il faut avoir conscience que nous vivons dans une société culturellement dominée par les médias. Ce n'est pas une dictature comme l'Europe en a connue au XXe siècle. C'est-à-dire que, comme j'ai essayé de le montrer, ce système oscille en permanence entre intérêt économique et exercice de la liberté d'expression. Mais il s'agit aussi d'une machine à produire en fait un ordre de politiquement correct, qui met en scène notre société d'une certaine manière, qui distribue des rôles, parfois de manière manichéenne, donc les bons et les méchants, et que donc les églises peuvent tenir ce rôle de méchant. Nous avons vu, donc lors de la loi contre le mariage pour tous, que les chrétiens avaient pu tenir ce rôle de méchant, mais aussi que les médias en fait s'étaient fait un porte-voix efficace du discours anti-mariage gay. Et en fait, c'est à double tranchant, puisque d'un côté, effectivement, les médias avaient diffusé le discours anti-mariage homo des églises, mais rien n'a été dit sur le message d'amour de l'Évangile. Donc le message que moi je voulais vous transmettre ce matin, c'est le constat suivant, c'est que nous avons l'image de conservateurs auprès des médias, mais n'oublions pas, à cause de ce reflet déformé, que nous ne sommes pas des conservateurs, nous sommes des révolutionnaires. C'est-à-dire que Dieu, notre Dieu, ne vise pas à laisser les choses en l'état, il vise à transformer les choses et les gens, et les médias, enfin l'image que nous avons dans les médias, ne doit pas nous faire oublier qui nous sommes. Donc le verset dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, ce verset dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. » C'est une manière de nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et c'est aussi un encouragement à marcher et à briller. Donc après, la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire briller ? Est-ce que c'est la lumière de la célébrité ? Est-ce que c'est la lumière de la raison ? Ou est-ce une manière de se distinguer de la violence et du désenchantement par notre capacité à espérer et à aimer ? Et voilà. Ah, vous avez des questions, peut-être ? Ouais. Je vais essayer de dire avant de questions.
Certainement, mais est-ce qu'on le fait maintenant ou plus tard ?
Comme vous voulez, moi je suis disponible.
Je pense qu'on peut avoir d'autres questions. Oui, je pense que je pensais juste à quelque chose, mais peut-être que Margarita reviendra dessus, ça sera sans doute. Sur l'attitude du professeur, l'influence des médias sur les enseignants, j'espère quand même que le professeur d'histoire, ce que je ne suis pas, je suis professeur de physique, est capable de prendre des distances par rapport à l'instantanéité et par rapport aux médias pour conduire ses élèves à une réflexion critique sur ce qu'ils reçoivent des médias. C'est un petit peu décourageant par la façon dont vous l'avez présenté à ce moment-là en disant oui, on est influencé, oui, bien sûr qu'on est influencé aussi en tant que professeur, mais on est invité, je crois qu'on l'est partout, à toute institution, à exercer un regard critique sur les médias, même en tant que prof de physique et de chimie, je le sais bien et je l'ai entendu souvent. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit aussi docile. Voilà.
Alors, c'est pas ce que je voulais dire en fait. Voilà. Ce que je voulais dire, c'était plutôt quelles difficultés sont confrontés les enseignants. C'était pas du tout mon propos de dire que, on va dire, les professeurs sont démissionnaires par rapport à la situation. C'était plutôt à quelles difficultés ils sont confrontés et quelles problématiques en fait ils doivent résoudre. Et effectivement, c'est toujours en fait ce que je dis qui a double tranchant sur les médias, c'est que c'est à la fois une force en fait, une force qui peut être utilisée pour transmettre pour renforcer même le discours des professeurs comme support pour transmettre non seulement des valeurs, mais simplement des contenus, des informations et des cours, mais aussi dans la pratique, c'est-à-dire dans le rapport qu'on peut avoir avec les médias, c'est aussi dangereux parce que toutes ces pratiques en fait, de séduction du spectateur viennent en fait à l'encontre de la transmission du message. Si, mais bon, vous savez sans doute mieux quoi, hein, c'est vrai que j'ai surtout parlé en fait, du côté média, qu'est-ce que aussi les médias ont comme effet sur les professeurs et les élèves. Après la réaction des professeurs, effectivement, je pense que vous en parlerez beaucoup plus loin.
Je rebondis juste un moment là-dessus, parce qu'il y a une petite phrase qui a prononcé. par rapport à cette question, c'est que les profs sont un peu influencés par le vocabulaire qui est utilisé par les médias. Donc,
oui. Ah, je n'ai pas dit qu'ils sont influencés, ils disent qu'ils se forcent un peu, je pense, à utiliser le vocabulaire.
Donc, oui, ça rejoint ce que tu disais en quelque sorte. Donc, à mesure, en fait, les médias, à ce moment-là, donnent les mots, et à partir du moment qu'on a les mots et le vocabulaire, c'est plus difficile d'avoir ce regard critique.
Je dirais que surtout, en fait, le discours du professeur, j'ai l'impression que la parole du professeur est du coup volée un peu par les médias, en fait. Alors, si on va dire que c'est un constat alarmiste, mais c'est un constat qui implique forcément des réactions et des possibilités de s'en sortir et de réagir.
Tu as un exemple concret?
Ah oui, alors bon, moi je pense, alors, du point de vue d'élève en fait, je pensais aux cours de langue et la manière dont en fait les cours de langue se reconstruisent, non pas autour de la grammaire ou de l'apprentissage d'un échange, enfin d'un dialogue entre le professeur et l'élève, mais autour d'une chanson, enfin moi je me rappelle les cours d'anglais, c'était une chanson des Beatles parcours quoi. Parce que justement ça séduisait davantage les élèves de parler de quelque chose qu'ils écoutaient à la radio ou qu'ils regardaient à la télé. Mais c'est pas un constat négatif, c'est juste c'est un constat à la fois positif et négatif. Enfin, il n'y avait pas forcément de jugement de valeur derrière.
Moi, ma remarque va un petit peu dans le même sens. C'est par rapport à toute la question alors des intérêts économiques dans les médias, la question du formatage. Alors, c'est une expression que j'emploie, mais c'est un peu ce que j'ai compris. Et en fait, alors moi, je réagis à la fois en tant qu'enseignant du supérieur et sociologue, donc avec peut-être une double casquette à cet égard. Et une des choses qui, je trouve, manque un petit peu, alors après, c'est bien sûr, c'est pas possible de parler de tout, donc c'est pas du tout une critique, il me semble que, en fait, il y a des travaux qui ont été faits en sociologie de la réception des médias, qui, moi, me semble en fait beaucoup moins alarmiste que quand on étudie en fait seulement la partie production médiatique.
Oui.
Et qui, je pense, sont beaucoup plus optimistes, surtout d'un point de vue pédagogique en fait, parce que, c'est des travaux qui ont été développés à partir des années 70-80, pour les gens qui ne connaissent pas ici, justement dans une ambiance où on était vraiment sur un discours sur la toute-puissance des médias, sur la société de masse, etc., etc., et qui ont consisté en fait à aller voir ce qui se passait quand des télescopes. Le prototype de la grande série, donc à partir des années 80. Et ce que montrent ces travaux, c'est qu'en fait, la réception des téléspectateurs à l'époque, sachant qu'il y a des travaux plus récents en fait, sur d'autres formes de médias, montre en fait que la réception, elle n'est jamais univoque, et qu'en fonction du contexte dans lequel on regarde, des gens avec qui on en parle, eh ben, on ne va pas percevoir du tout, on ne va pas forcément être captivé à 100%, et en gros...
Oui, on peut avoir un discours critique sur les médias, tout à fait, bien sûr. Oui.
Et qu'après, il y a différentes formes de discours critique. Et je trouve ça intéressant déjà parce que ça nous montre un peu que les téléspectateurs et que les consommateurs de médias ne sont pas si bêtes que peut-être que ce que les producteurs de médias pensent. Mais ça, c'est un autre débat. Et du coup, je pense que ça donne une perspective très intéressante pour les enseignants qui consiste à dire, bon, bah, voilà, on a plusieurs manières d'apprendre. Comme on peut, à l'école, on apprend à étudier des textes et on peut étudier d'autres messages médiatiques exactement de la même manière avec les mêmes outils et s'intéresser aussi justement à la manière dont les médias fonctionnent.
Ça aurait pu être un chapitre supplémentaire sur les réactions, encore une fois, de l'enseignement par rapport à sa société médiatique et comment l'école essaye d'éduquer les élèves à un bon usage des médias. Mais là, comme mon sujet, c'était vraiment l'impact sur la transmission des valeurs. Je ne suis pas allé jusque-là, mais c'est bien de faire mettre une note d'espoir.
De l'autre côté, en fait, quand on regarde ce qui se passe côté réception, finalement, on se rend compte qu'on a de la marge. Alors après, qui est un peu contrainte,
Ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a deux points de vue existent simultanément. Un point de vue plutôt encourageant et positif sur la manière, enfin tout ce que les médias peuvent apporter à la famille, à l'individu. Mais aussi, je pensais par exemple à l'initiative qui a eu lieu, qui s'appelait 10 jours sans télévision. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, enfin pour ceux qui connaissent pas, ça a été des familles, des élèves qui sont engagés à rester pendant 10 jours sans contact avec les médias. Et au bout de ces 10 jours, en fait, les gens témoignaient « Ah, mais déjà, on parle plus entre nous, ça a vachement favorisé la communication entre les gens, c'était une espèce de respiration. » Donc, j'ai l'impression qu'il y a C'est assez ambivalent, en fait.
À propos des séries, j'ai effectivement remarqué ce que vous disiez sur le fait que la religion est occultée en regardant Inspecteur Barnaby en version originale. J'ai remarqué que les références à Dieu, bon, il y a des expressions bon, qui ne veulent plus dire grand-chose, comme si on disait pour l'amour de Dieu.
C'est ça.
Il y a quand même, il y a ça, bon, ça ne dit pas grand-chose pour nous. Mais il y a quand même des réalités vraiment, des réflexions qui font référence à la religion chez les Anglais, qui sont totalement supprimées dans les sous-titres ou dans le doublage, voilà. Mais en revanche, il me semble quand même, enfin moi j'ai vu il y a quelques années avec ma fille qui regardait Friends, il y avait un mariage homosexuel, et dans Plus belle la vie, il y a eu de plus en plus présentation d'homosexuels. Donc est-ce que c'est vraiment une image consensuelle du monde?
Complètement. Alors justement, l'exemple de Plus belle la vie, je trouve que c'est un très bon exemple par rapport à ma théorie, c'est-à-dire que les médias sont à la fois obligés d'être dans l'air du temps et en même temps créer en fait cette air du temps. C'est qu'il y avait un double rapport. La fiction est un petit peu en retard par l'actualité. Il y a le temps de création des séries, oui, qui fait qu'en fait il y a une question médiatique et un an après, alors avant c'était. À chaque fois.
Ce que j'ai vu là, c'était il y a longtemps, et c'était pas, à mon avis, j'ai trouvé que ça précédait moi, parce que ma fille était encore à la maison.
Alors, c'est vraiment une question intéressante. Est-ce que ça.
Je pense que ça a augmenté depuis, mais j'ai eu l'impression que ça précédait.
Ouais, j'ai pas de réponse effectivement toute faite là-dessus, mais c'est une très bonne question. C'est toujours est-ce que l'art imite la vie ou la vie précède l'art? Mais dans le cas de Plus belle la vie, c'est vraiment un cas particulier parce qu'elle est présentée comme une série consensuelle sur tous les points.
C'est ce côté consensuel qui m'intéresse quelque part parce qu'en fait, petite anecdote, et j'aimerais savoir si ça confirme un peu ce que tu disais. Sur M6, il y a 15 jours, il y avait une émission sur Madagascar. Donc, j'ai regardé parce que ma fille était là. Vraiment très critique sur le véhicule économique, social du pays, sur le tourisme sexuel, des choses comme ça. Il y avait un truc assez positif, ils ont parlé d'un bateau qui est actuellement à Tamatave. Je le savais parce que ma fille qui travaille dans l'hôpital m'en avait parlé. Il y a un bloc opératoire, ou plusieurs blocs opératoires, ils prennent en charge des personnes sur place, ils font des choses que le pays ne peut pas faire. Donc ça c'est super. Seulement, c'est un bateau chrétien et ils n'ont jamais dit du début à la fin les valeurs derrière en fait cela. Donc il me semble que si je résume en quelque sorte ce que tu disais, le problème n'est pas que les valeurs sont toujours mauvaises, mais il y a suppression ou omission en quelque sorte de spiritualité ou de valeurs autres que des valeurs consensuelles, si on veut. Enfin,
oui, pour moi, c'est consensuel dans le sens qu'elles ne vont pas être marquées culturellement.
La réalité est une partie de la réalité.
Oui. C'est ça. Oui. C'est ce que je disais sur les choix quantitatifs qui sont faits dans les médias. En fait, c'est quel sujet, pourquoi tel sujet va revenir 10 fois dans plein de, à la fois dans les séries, dans les émissions. Pourquoi tels sujets ne seront jamais abordés. On voit ça par exemple avec le. Enfin, le terrorisme, par exemple, ça c'est complètement d'actualité. Et c'est un sujet qui a beaucoup évolué sur 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était, alors maintenant, on n'arrête pas d'essayer d'analyser pourquoi, d'où ça vient.
Et pourquoi ne pas dire au moins une petite bout de phrase pour dire que c'est un bateau d'inspiration chrétienne?
Oui, parce que ça serait s'inscrire dans un débat.
Ouais.
Parce que ça serait donner une image des chrétiens que les médias n'ont pas forcément envie de donner, en fait. Après, c'est pareil, c'est une question complexe. Je ne veux pas que mon discours dise les médias veulent consciemment donner une mauvaise image des chrétiens. Ce n'est pas ce que je dirais. Je dirais plutôt ils veulent rester dans la consensualité une fois, en ne s'engageant jamais pour jeter une lumière positive sur les chrétiens, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'ils refusent de faire. Ce qui est différent de donner une image négative.
Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Autrement dit, est-ce qu'ils ont les... Parce que je pense... à l'évolution peut-être de la représentation des évangéliques dans les médias ces dernières années, qui de très négative est devenue parfois plus positive. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi de la part des évangéliques un travail de communication.
Bien sûr, heureusement. Bien sûr.
Et qui du coup porte ses fruits. Et donc, plutôt que de dire les médias sont contre nous, il y a un.
Non, non.
Et que d'autres.
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un rapport de force, en fait.
Oui,
et que le rapport de force est effectivement en train d'évoluer. C'est très.
C'est très positif. Et que la communication, en fait, allait dans plusieurs sens.
Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Après, en fait, le danger que je pointe du doigt, c'est même pas de dire que les médias empêchent la liberté de penser ou quoi que ce soit, c'est pas ça, c'est plutôt les médias nous donnent une image de nous-mêmes. Est-ce qu'on la contrôle? Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir en fait? Donc c'est vraiment une question de pur rapport de force. Ah, merci pour ces questions, complétez bien ce que je disais.